Voilà pour ce bouquet. Ça fait plaisir de vous revoir. Veuille, Seigneur, ouvrir notre esprit et nous aider à pénétrer tes pensées à travers ces lectures, cette méditation. Amen. Vous êtes mes témoins. Vous avez remarqué la redondance de ce thème dans les ces différentes lectures. Alors, ce matin, on va essayer de tourner autour de la question de l'évangélisation. Comment aborder cette question de l'évangélisation dans une situation devenu tellement embrouillé. Sur les plans religieux en général, mais aussi sur le plan des christianismes protestants, catholiques, orthodoxes, évangéliques, beaucoup de personnes de nos contemporains s'y perdent un petit peu. Comment annoncer l'évangile ? Alors que beaucoup de personnes ont souffert d'abus de pouvoir de la part des institutions religieuses. Combien de personnes n'ont pas jeté le bébé avec l'eau du bain? Et nous sommes quand même toujours appelés à être les témoins de Jésus-Christ. Dans ce contexte-là, avouez que ce n'est pas toujours très simple. Vous êtes d'accord? Nombre de nos contemporains sont désorientés, se sentent comme pris dans un maquis touffu, et particulièrement sur le plan des églises évangéliques. La multiplicité d'offres brouille l'image de l'évangile. Ce n'est pas toujours les ennemis de la foi qui compliquent les choses. On l'a vu chez Paul. Il y a... Excusez-moi, j'enlève pour lire, ça va mieux. Sur le plan des églises évangéliques, la multiplicité d'offres brouille l'image de l'évangile par l'esprit de concurrence, par la tentation du pouvoir, par les scandales de toutes sortes, financiers, moraux, etc. L'Église catholique n'a pas le monopole des scandales sexuels. Comment faire, donc? Il n'est pas facile d'aider nos contemporains à faire la différence entre religion et foi en Jésus-Christ. J'ai l'impression qu'il faut parfois... décoller le chewing-gum aussi dans cette matière-là. À ce tableau un peu sombre, vous en conviendrez, viennent s'ajouter ce qui marque notre société présente. Le relativisme des convictions, tout est égal. Si ça vous fait plaisir, chacun fait ce qui lui plaît, n'est-ce pas? L'individualisme aussi, moi, moi, moi. Je trouve que cet individualisme a des échos jusque dans nos cantiques. Combien de cantiques en « moi, je » et bien peu en « nous, lui, toi » l'individualisme. Le matérialisme, bien entendu, on nous pousse à consommer toujours, toujours plus. Quoique on nous annonce l'austérité, la fin de l'abondance. Pour certains, il y a longtemps que ça dure. Hein. Il y a aussi tous les cultes du plaisir. Il faudrait aussi évoquer les craintes pour l'avenir de la planète, pour sa sécurité, guerre, bruit de guerre, pour son avenir écologique. etc. Nous vivons une époque chargée, n'est-ce pas ? Très chargée. Et la parole de Jésus est toujours aussi actuelle qu'à l'époque où il disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, celles et ceux qui connaissent le repos de la foi sont des témoins. Comment faire entendre la parole de Dieu aujourd'hui ? Comment faire entendre aujourd'hui, dans ce contexte-là, la bonne nouvelle, une bonne nouvelle, celle de Jésus-Christ ? Il faut remarquer aussi que notre époque n'a plus grand-chose à voir avec celle du christianisme naissant. Dans le monde gréco-romain, la situation était relativement simple. Il y avait d'un côté le paganisme des nations, les païens, et il y avait de l'autre côté la synagogue des juifs. Et puis, tout à coup, grandit entre ces deux pôles une nouvelle secte qui rencontrait partout de l'opposition, la secte des Nazoréens, nommée plus tard les chrétiens. D'abord considérée comme une secte juive parmi d'autres, et puis petit à petit, les chrétiens sont apparus comme une menace pour l'ordre public. Alors comment faire ? Très tôt, le christianisme connaît une grande diversité lui-même. Le Nouveau Testament nous en offre le spectacle. Des tensions surgissent. Il y a les disputes à propos de la continuation des observances juives dans les églises. À Jérusalem, on est convaincu qu'il fallait aller au temple, offrir des sacrifices, circoncire les petits garçons et observer la cacheroute. Je n'ai pas dit le casse-croûte. La nourriture cachère. Et puis à Antioche, 200 kilomètres au nord, on en prenait à son aise avec tout ça. Parce que les païens étaient entrés dans les communautés. Et ils étaient convaincus que on n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais uniquement par la foi du Christ. Et vous connaissez, au chapitre 15 des Actes, ce concile, ce premier concile de Jérusalem, où il a fallu régler ce problème. Et on en a conclu qu'il ne fallait pas faire porter aux païens un joug que ni les Juifs ni leurs ancêtres n'ont été capables de porter. Alors on leur recommande simplement de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, de l'impudicité, et puis de vivre l'Évangile, tout simplement. La paix soit avec vous. Et voilà comment ça s'est résolu. Par exemple, dans l'Épître aux Philippiens, on l'a lu, l'apôtre Paul évoque des gens qui annoncent le Christ avec de mauvaises intentions. C'est-tu Dieu possible ? Là, on touche du doigt un problème. C'est les pensées secrètes. Qu'est-ce qui nous motive quand on témoigne de Jésus-Christ ? Qu'est-ce qui nous motive quand on prie ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Jésus nous a donné des enseignements à ce sujet en nous disant « Ne soyez pas comme les païens quand vous priez ». Qui multiplient les paroles parce qu'ils pensent qu'à force de paroles, on va emporter le morceau. Dieu n'a pas besoin d'être saoulé de nos prières. Il y a aussi des enseignements de Jésus sur les grands piliers de la piété juive, le jeûne, l'aumône. Quand tu jeûnes, lave ton visage, parfume ta tête, pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, qui voit dans le secret. Et puis quand tu pratiques l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Il ne s'agit pas d'une leçon de piano, là. Hein. Ne faites pas ça pour la galerie. Donc, quelles sont nos motivations quand nous parlons de témoigner de Jésus-Christ? Certains annoncent Christ dans le but de me susciter des persécutions, ben dites donc. Alors, ils ne cherchent pas à convertir les gens, mais à embêter Paul. C'est plus un témoignage, ça. Ceux qui aussi subvertissent l'Évangile en le mélangeant à des observances religieuses inspirées du judaïsme ou à des mythes grecs de la philosophie des hommes. Quand Paul écrit à Timothée, à Tite, enfin dans les épîtres qu'on dit pastorales, il revient sans cesse sur ces questions en disant « Fuis les discussions vaines et inutiles ». Elle ne contribue qu'à embrouiller les choses, à ruiner la foi des gens. Donc Timothée, Tite et nous, fuyons les légendes, fuyons les mythes, fuyons la philosophie. La foi chrétienne n'est pas une philosophie. Peut-être qu'elle en produit une, dans le bon sens du terme. Ça, c'est différent. Aimer la vie, philosophie, aimer la sagesse, est un fruit de l'Évangile, et pas le contraire. L'Évangile n'est pas le fruit de l'amour d'une sagesse. Or, si on ne peut plus faire entendre efficacement la parole du Christ dans notre monde, ou si c'est si difficile, eh bien, tout n'est pas perdu. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle. On peut toujours le manifester, le montrer dans nos actes. Cela ne pourra jamais nous être interdit d'accomplir des gestes de compassion, de miséricorde, d'accueil, de secours de ceux qui sont en mauvaise posture. Là, je n'ai pas besoin d'aller dans les détails, vous connaissez ça tous les jours. Matthieu 25, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade ou en prison et vous êtes venu vers moi. Ah bon? Quand ça? Quand est-ce qu'on t'a vu? Chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est ça, vous serez mes témoins. Les chrétiens sont invités à montrer quelques reflets du royaume des cieux déjà présents, peut-être en secret dans le monde, mais déjà présents quand même.
Quand même.
C'est ça, vous serez mes témoins. Ne soyez pas comme ce chef religieux qui demandait à Jésus « Hé, qui est mon prochain ?» Tout de même pas n'importe qui. Et Jésus va le bousculer en lui montrant que celui qui était le prochain du blessé de la route, c'était un hérétique samaritain. Alors ça, c'était piquant. Hein ? Avant tout, l'évangélisation attire l'intérêt de Dieu. Dieu est concerné. Il veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce qu'il écrit à Timothée, première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 4. Ça y est, j'y arrive. Et au chapitre 4, plus loin, il le réaffirme solennellement. Elle est digne de confiance, cette parole, et mérite d'être pleinement accueillie par tous. Car si nous peinons et si nous combattons, c'est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. Vous voyez, Dieu est intéressé par l'évangélisation. Surtout des croyants. Alors là, franchement, je vous l'avoue, J'ai été longtemps dérangé par ça, ce mot. Pourquoi il dit ça ? Il dit tous les hommes, mais surtout les croyants. Et est-ce qu'il y aurait un truc secret, là ? Ici, le mot employé par Paul dans le grec, c'est « malista », qu'on a traduit par « surtout » ou « principalement ». Il peut être traduit par « d'abord ». Ah, « malista », d'abord. Dieu est le sauveur de tous les hommes, d'abord les croyants. Alors, il me semble que ce terme porte l'idée d'une prémisse, des prémices. Et ça me semble confirmé par la lettre de Jacques, chapitre 1, verset 18, qui dit « De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons, pour ainsi dire, les prémices de ses créatures. » Or, les prémices annoncent quoi, à votre avis ? La fin de la récolte, la grande moisson. Alors, quand Paul dit que Dieu est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants, ça ne veut pas dire qu'il élimine les autres. Mais c'est une promesse. Bien sûr, Dieu ne peut pas forcer la foi. Il ne peut pas sauver ceux qui s'y refusent, clairement, ostensiblement. Mais les visées de Dieu sont beaucoup plus larges que les nôtres, voyez-vous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Vous serez mes témoins sans choisir ceux, celles à qui nous désirons témoigner. Nous ne pouvons pas choisir. Nous prenons le tout venant. Et c'est Dieu qui fera le tri à la fin des temps. Vous connaissez cette parabole des terrains, du bon grain et de l'ivraie. Jésus interdit, enfin dans cette parabole, le maître interdit aux ouvriers d'arracher l'ivraie, de faire le travail avant le temps. Il dit, laissez-les croître ensemble. Et dans notre manière de témoigner de Jésus-Christ, soyons animés de cette vision. On ne choisit pas ceux que nous désirons, à qui nous désirons parler de Jésus, ou ceux auxquels nous voulons montrer Jésus-Christ. Dieu est toujours à la manœuvre. Veillons simplement à ne pas y faire entrave. Dieu a ses stratégies déconcertantes parfois. Soyons attentifs aux conseils de l'Esprit-Saint, comme l'a fait Philippe, que dans une vision, Dieu envoie sur un chemin désert. Comment je vais évangéliser les cactus, les scorpions ? C'est désert. Il ne discute pas, il y va. Et tiens, juste par hasard, une berline super luxe qui s'approche. Enfin, ce n'était pas une berline, c'était au pas des chevaux. Approche-toi de ce char. Mais moi, je suis époustouflé de voir la souplesse et la disponibilité de Philippe. Quand même, il faut le faire. Et il fait du stop. Et il voit que cet homme est en train de lire le prophète Ésaïe. Comprends-tu ce que tu lis ? Comment le pourrais-je si personne ne me guide ? Et il l'invita à monter sur son char. Et ça a dû durer un certain temps, puisque Philippe a eu suffisamment de temps de lui témoigner de Jésus-Christ et de sa filiation au prophète d'Israël, jusqu'à ce que cet homme réalise, comprenne qui est Jésus, se convertisse, et tiens, il y a de l'eau là, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Ça va vite, hein ? Il n'y a pas de préparation au baptême de 15 semaines. Et donc Philippe et l'eunuque descendent dans l'eau. Et il est baptisé. Puis après, c'est terminé. Philippe disparaît. Témoigner de Jésus-Christ sans le souci de l'après-vente. témoigner de Jésus-Christ ne signifie pas mettre la main sur les gens, les considérer comme sa propriété, à la grâce de Dieu. Être un témoin de Jésus-Christ, c'est respecter la liberté des gens. C'est le contraire de l'embrigadement. Voyez-vous ? Et on a du mal avec ça. On est très tenté par garder la main sur les gens. Hein ? Mais qu'il nous suffise de prier pour eux, puis ma foi, s'ils se trouvent bien avec nous, tant mieux. L'évangile n'est pas une opération séduction. Vous savez, cet évangile vendeur. Si vous avez la foi, vous allez devenir milliardaire. Vous aurez 3 berlines dans votre garage, une belle piscine. Ça existe, ça, hein, l'évangile de la prospérité. On fait de l'évangile une friandise attirante. Et on a tout faux. L'évangile n'est pas vendeur. Témoigner de l'évangile, c'est un évangile dépouillé de tout artifice mensonger, toute publicité mensongère. Témoigner de l'évangile n'est pas un spectacle avec strass et paillettes. Voyez-vous, sur Internet, on peut assister des fois à des cultes de méga-churches. Vous comprenez ce mot, méga-church ? Maintenant, on est même au giga-church. Alors, il y a une grande estrade, des musiciens, des lumières, des trucs. Et une musique assourdissante. Il commence même à y avoir des danseuses. Ah ! On prétend évangéliser. Voyez-vous ? Mais il faut bien attirer les gens, il faut bien vivre avec son temps. Ouh là ! Justement, Jésus ne nous appelle pas à vivre selon notre temps. Il nous appelle à vivre dans la fidélité à sa personne, à ce qu'il est. Et la réponse à la question de l'évangélisation est davantage du côté de nos manières d'être, du côté de nos œuvres belles et bonnes, à côté de nos manières d'être, époux, épouse, père, enfant, citoyen, ouvrier. C'est de ce côté-là que l'Évangile veut passer jusque dans les aspects les plus quotidiens de nos existences. Dans le texte d'Ésaïe que nous avons lu, la première chose que demande Dieu à ses témoins, c'est qu'ils comprennent. Comment voulez-vous être témoin de l'Évangile que vous n'avez pas compris ? Les disciples ont mis du temps à comprendre. Jésus s'est plaint de leur lenteur. Et nous ne sommes pas mieux. Nous mettons parfois des années, à saisir la grâce. Simplement ça. La gratuité. La bonté. De Dieu. Parce que voyez-vous, nous chérissons nos petits péchés mignons, nous les ressassons, nous les passons en mémoire, nous en rêvons, nous nous en fustigeons. Dieu l'a dit dans sa parole, ne ressassez pas les choses passées. 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, nouvelle création, par grâce. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau, par grâce, gratuitement. Et combien de temps nous faudra-t-il pour arrêter de nous fouetter nous-mêmes ou de fouetter les autres ? Je parle pour les pasteurs. Oui. Nous mettons du temps à comprendre. Comment voulons-nous témoigner d'un évangile que nous n'avons pas encore suffisamment compris, qui n'est pas encore descendu dans les profondeurs abyssales de nos cœurs ? Dieu opère à cœur ouvert. Voilà. Il le sort, Il trifouille dedans, il répare ce qui ne va pas, il le remet. Et c'est reparti, mon kiki. Mon burki. Qu'ils me comprennent. Ensuite, il dit qu'ils aient confiance en Dieu et non pas dans l'œuvre de leurs mains. Nous mettons beaucoup d'énergie dans les moyens techniques pour annoncer l'Évangile. Nous portons beaucoup d'attention à nos institutions, à nos stratégies, etc. Je ne dis pas que c'est inutile, mais c'est toujours l'œuvre de nos mains. Et Dieu nous demande de ne pas adorer les œuvres de nos mains. Et puis, Dieu leur demande de discerner ce qui différencie le Dieu vivant des idoles du monde. Je suis Dieu, avant moi il n'y en a pas eu, après moi il n'y en aura pas d'autre. Et pour moi, Jésus-Christ est l'unique chemin, l'unique sauveur. On voudrait bien aujourd'hui, certains milieux voudraient bien, des milieux chrétiens, que, oui, on aille vers le dialogue. Bien sûr qu'il faut aller vers le dialogue. Mais dialoguer avec quelqu'un, ce n'est pas d'emblée accepter tout ce qu'il préconise. Il faut rester ferme dans la foi en Jésus-Christ, l'unique sauveur. Les prophètes d'Israël ont toujours combattu la tendance de ce peuple de faire de Dieu, de son temple même, du culte même, des idoles. Quand on en vient à idolâtrer l'Église, ou la Bible n'est pas Dieu, elle est inspirée de Dieu. D'abord, si elle était Dieu, il faudrait qu'elle soit dans une langue indiscutable. Mais bon, vous avez vu le nombre de versions que l'on a? Laquelle est la bonne? On n'est pas musulmans. Pour eux, le Coran a été dicté en arabe. Tombé du ciel. Ce n'est pas du tout notre conception de la parole du livre, de la parole du Seigneur. Donc, ne faisons de rien ni de personne des idoles. Soyons simplement, humblement, attentifs, ouverts à l'Esprit de Jésus. La prédication de l'Évangile, bien entendu, demeure la mission prioritaire que Jésus donne à son Église. C'est vrai. Et il est toujours prêt à appuyer la parole de ses envoyés par des signes, des prodiges, par les dons du Saint-Esprit. Heureusement, ça marche encore. Il ne faut pas y renoncer. Mais parfois, il nous faut remettre en question notre volonté d'amener les gens à l'Église pour qu'ils s'y convertissent, comme si c'était leur seule possibilité de le faire. Comprenez? Ah, on voudrait voir cette salle remplie et débordée. Comment faire pour amener les gens au milieu de nous? Mais vous inquiétez pas. C'est pas ce que Jésus a dit. Jésus n'a jamais dit « J'enverrai les païens vers vous. » Mais il dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Oh là là ! « Je vous envoie vers les nations. » Allez vers. Et voyez-vous, être membre d'une église, c'est avoir conscience que ils viendront ceux qui se seront déjà convertis. Il y a un verset dans le livre des Actes qui dit « Le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. » Comment l'étaient-ils? Pas forcément dans le cadre de l'Église, mais par le témoignage de chacun des membres. Et vous êtes capable d'amener à la conversion des gens. Vous pouvez le faire. Vous êtes capable de prier pour les malades. Vous pouvez le faire. Vous êtes capable de chasser les démons. Si le Saint-Esprit nous habite, nous pouvons aussi faire les œuvres que Jésus faisait. Et la venue de ces gens à l'Église nous est donnée par surcroît. Je crois ça. Une chose paraît clairement au chapitre 10 du livre des Actes. Vous connaissez cette histoire de Corneille, l'homme qui croit. Un ange apparaît à un centenier païen dans la ville de Césarée pour lui annoncer que Dieu a vu sa piété et qu'il désire lui faire connaître l'Évangile. Il s'agit, pour Dieu, de faire passer cet homme d'un monde à l'autre. Il veut le faire changer de monde. J'ai vu tes aumônes, toute ta vie religieuse, mais j'ai autre chose pour toi. Il veut le faire passer au monde de la foi. Grand défi, en vérité. Alors je me suis demandé pourquoi l'ange n'a pas directement annoncé l'évangile de Jésus à Corneille. Il aurait pu le faire très bien, très fidèlement. Non. Il lui demande, tout banalement, de faire venir un certain Simon, surnommé Pierre, qui habite à Jaffa. C'est tout ce qu'il lui dit, sans plus de détails. Et pour que la rencontre se fasse et que l'évangile soit annoncé à Corneille, bien Dieu devra faire la même chose pour Pierre. Dieu devra faire changer de monde à son apôtre. Comment va-t-il s'y prendre pour vaincre les préjugés religieux de Pierre, attaquer sa judéité rituelle? Eh bien, il va lui donner une vision sacrilège. Dieu va donner une vision sacrilège à Pierre, qui est bouleversé. Jamais de la vie, rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Il y avait là des reptiles, toutes sortes de trucs, ça grouillait dans cette nappe descendue du ciel. Et par trois fois, la parole de Dieu retentit. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas comme souillé. Et là, Pierre est vaincu. Chaos. Il a changé de monde. On frappe à la porte, descend et va avec ses hommes. C'est moi qui les envoie. Et Pierre va se retrouver chez Corneille. Je passe sur les détails. Il va apporter chez le païen la bonne nouvelle de Jésus. Et là, il aura la surprise de sa vie, la surprise du chef. Il est en train tout banalement de leur parler. Ben, vous savez ce qui s'est passé, Jésus, un prophète puissant, il était parmi nous. Et tout d'un coup, les païens reçoivent le Saint-Esprit. Ils vivent une Pentecôte. Alors Pierre, là, il dit, je fais du hors-piste, là. Il a perdu tous ses moyens. Et il sera obligé de retourner à Jérusalem, convoqué par la maison mère. Comment ? Tu es entré chez un païen, tu as mangé avec eux, c'est pas possible ça. Oui, au fond, le premier converti de cette histoire, c'est Pierre. Il doit se départir de son particularisme et de son séparatisme, comme on dirait aujourd'hui, s'affranchir des dogmes imposés par son identité juive pour aller vers les autres. Pour aller vers les autres, Dieu a besoin de nous. Il en va de même de ce ministre éthiopien retournant chez lui en lisant l'Écriture. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour devenir témoin de l'Évangile, Pierre a dû accepter d'entrer chez le païen, manger avec lui, toutes choses qui lui seront reprochées. Il faut parfois accepter de se faire mal voir, même de ses proches, par fidélité à l'Évangile. Vous aurez sûrement tous l'occasion de l'expérimenter, ça. Mais tant pis, c'est pas grave. Je suis aimé de Dieu. Je suis mal vu des hommes, de ma concierge, de mon patron. Tant pis, je suis bien vu de Dieu. Et c'est ça qui compte. C'est ça l'Évangile. C'est cette paix, cette joie qui rayonne. Ce sont ces gestes qui construisent des ponts. Vous comprenez ça? Ça, c'est témoigner de l'Évangile. Je termine en disant qu'on peut considérer trois lieux de communication de l'Évangile. Le premier, je parlerai de l'estrade, l'Évangile de l'estrade. Elle peut encore avoir sa pertinence, la proclamation devant les foules, mais gare aux dérives du show business. Le deuxième lieu, c'est le contraire, c'est la crypte. Là où l'on cherche à protéger un résidu de fidèles. La pureté de la doctrine. Se préserver du monde. Ça a été aussi une tentation dans certains milieux chrétiens. La crypte, le lieu caché. Ça peut être utile, peut-être, pour reprendre des forces. Se recentrer sur la personne de Jésus. Mais de temps en temps, il faut sortir à l'air libre. Hein. Le troisième lieu, c'est la rencontre des autres. Risquer le hors-piste, s'aventurer vers les autres, les aimer. Ce n'est pas toujours facile de les aimer. Hein. Mais Dieu a aimé ceux qui n'étaient pas aimables, moi par exemple. Les aimer surtout, car ils sont aimés. Le monde a besoin de voir qu'ils sont aimés. Les communautés chrétiennes ont la responsabilité de manifester l'amour de Dieu en actes. Une église peut très bien grandir sans faire de l'évangélisation, mais par la qualité de la relation fraternelle, par sa connaissance de Dieu et par l'écoute de l'Esprit. Amen. Seigneur, aide-nous à être tes témoins. Que nos pas dans ce monde, dans cette existence, dans cette vie, soient tes empreintes. Que nous puissions répandre le parfum de ta connaissance en tout lieu. Fais-nous grâce en toutes choses. Accorde-nous par le Saint-Esprit les gestes, les attitudes, les œuvres qui parlent de toi, qui témoignent de ta venue dans ce monde, de ton amour manifesté et de l'espérance de ton retour. Amen.